Alors messieurs,
on avait trop bu. Mais si, t'étais là, mais
les futurs Science Super Crew sont devant vous.
Alors, il vous manque un peu de couleur quand même. Messieurs, bonsoir, bienvenue.
Science Super Crew blanc.
Bienvenue sur le stand de la Ferrarock pour
sur
cette interview.
On se croirait dans une merguez party. Ouais.
Ils sont pas loin. Donc avec les quatre membres qui vont se présenter eux-mêmes.
Les membres
et quels membres de quoi?
Je dis membre.
Donc on va commencer par la droite.
Donc, Crazy B, Birdie Nam Nam.
Poon, Birdie Nam Nam.
Michael, Birdie Nam Nam.
Et Denis, Birdie Nam Nam.
Ah, donc vous l'aurez deviné, du groupe Birdie Nam Nam.
Tout à fait.
Exact.
C'est très sympathique de venir nous voir.
Et c'est très sympathique c'est sympa de nous inviter.
Ouais. Alors, t'as moins de répartie que tout à l'heure là. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est l'alcool.
Et le micro.
C'est le micro qui t'a...
Alors première question, moi qui ne suis pas du tout un connaisseur ni un grand fanatique de hip-hop, ouais. Vous considérez comme un groupe, des performeurs, des grands sportifs, puisqu'il paraît que vous excellez dans un certain art, ou tout simplement un groupe de musique.
Voilà, on se considère comme un groupe de musique. Pas du tout. De temps à autre. Non, un groupe de musique, voilà, on est... La particularité de ce groupe, c'est juste qu'on joue tous les instruments et tous les morceaux sont faits avec des platines. Mais sinon, voilà, on n'est pas à force plus un groupe de hip-hop qu'un groupe de rock ou quoi. On est un groupe où on fait notre musique et qui s'inspire de pas mal de choses. Et, voilà, ouais. Donc nous, on se considère comme un groupe de musique. Après, donc, comme un groupe de musiciens, dire on est des super musiciens, n'en est pas là. Mais en tout cas, voilà, on se considère comme un groupe à part entière, comme peut être un groupe de rock ou de rap ou n'importe quoi.
Et puis dans la musique, on se limite à rien finalement, on se laisse aller là où le vent nous porte souvent, donc on n'a pas d'a priori, on n'est pas structuré à faire que du hip-hop ou à faire que ça.
Et puis ça ne veut rien dire hip-hop, il y a des groupes de hip-hop qui tournent avec des icos aussi. Quoi.
Et puis même la façon dont on fait la musique, dont c'est fait, elle est tout simplement hip-hop parce qu'elle est faite aux platines et manipulée en scratch. Et qu'il n'y a rien de plus hip-hop. On a vraiment la base. Après, on souffle dans la musique, mais la façon de faire la musique, elle est quand même. Il n'y a rien de plus hip-hop. Quoi. On était dans une chambre avec nos platines et puis on a créé nos musiques comme ça. Quoi.
Et justement, en parlant des platines, il y a un parti pris musical ou esthétique de privilégier que des platines, sans machine, sans.
On utilise des machines pour enregistrer les trucs, mais. Si nous, on se dirige vers un style particulier quand on fait ça.
Non, en fait, la vraie démarche de ce premier album, effectivement, c'était... nous, on vient quand même pas mal du milieu des compétitions, qui est quand même un milieu où, effectivement, on est un peu plus dans la performance. Enfin, quelque part, dans les compétitions, il y a quelques facteurs à respecter pour gagner des championnats. Et nous, on a couru après certains titres de championnat à un moment. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on les a eus, ayant toujours eu cette démarche d'essayer quand même de donner de la musique aux gens... On a fait cet album qu'on a voulu seulement faire avec des platines pour un peu voir tout ce qu'il était possible de faire en se limitant à ça pour aller au-delà des limites de cet instrument en particulier. Quoi. Mais voilà, c'était l'histoire de ce premier album et c'est l'histoire de ce live, même si déjà il y a des musiciens, mais le prochain album, il y aura des musiciens. On utilise déjà des machines dans la musique qu'on fait aujourd'hui et des musiciens live. Donc ce sera pas que fait, on va pas se cantonner à ce simple instrument à l'avenir.
Envie de sourire.
Est-ce que le fait d'avoir fait ces compétitions et cet album, c'était une manière de passer du côté scolaire et rigoureux justement de la compétition à un côté plus ludique où au final on est plus jugé pour l'exercice mais pour le flow, le rythme, parce que vous avez cette réputation où on m'en a parlé récemment dans un endroit où vous étiez retrouvé devant plus que 30 ou 40 personnes qui étaient complètement avachies tout le reste de la soirée, et cette personne me disait on était tous complètement morts, et ils sont arrivés et ils nous ont tous fait, ils nous ont tous réveillés, ils nous ont remis le feu, la flamme. C'est ce côté un peu plus ludique et musical.
C'est sur les gens au paintball, hein, faut le savoir, de la scène pour la vie.
Mais quelque part, c'est juste complètement différent quand même entre une compétition qui dure 6 minutes où on s'investit par rapport à un jury où c'est un titre à gagner et un album construit comme ça qu'on représente sur scène après comme un groupe. C'est carrément différent et c'est pas du tout le même échange aussi avec le public. Et c'est juste, on est comme un groupe de musiciens. Et c'est vrai que ça, quand on a fait la compétition, ça nous a amené à ça quelque part. Déjà rien qu'à nous rencontrer, à créer le fait de travailler en tant que musicien, que chacun avait son élément. Et puis après, on a créé un album comme ça. Mais maintenant, de faire la musique, notre musique, il l'a rejouée sur scène sans être calibré dans quelque chose, c'est une liberté énorme. Et c'est vrai que c'est deux choses complètement différentes dans le plaisir et dans la réalisation. Ouais,
mais ça a été enrichissant aussi, c'est un fait.
Puis aussi sur scène, incontestablement, le fait d'arriver avec une formation comme ça, faite que de platine, ça interpelle les gens. Aussi, je pense qu'on tourne aussi beaucoup à cause et grâce à ça, quoi. C'est parce qu'on n'est pas, un énième groupe de hip-hop,
de rock,
de reggae ou de rock. Voilà, on fait de la musique. Chacun la qualifiera comme il veut, mais voilà, tous les instruments partent des platines et on manipule en live les platines, et c'est peut-être aussi ce qui éveille l'intérêt du public à un moment, puis si ça lui plaît, il va peut-être le manifester, quoi. Mais
le côté, comme tu dis, scolaire ou ludique, c'est clair, c'est plus scolaire, mais ça reste quand même. Ça reste quand même technique et professionnel au final, mais c'est vrai que je dirais pas que maintenant qu'on s'amuse plus, parce qu'en compétition, c'est juste qu'en compète, t'as aussi le stress, donc c'est pas la même chose, mais c'est vrai que je dirais pas que c'est plus ludique, mais c'est vrai qu'on se lâche vachement plus, et puis on a aucune limite de. Bon, là, ce soir, oui, on joue qu'une heure, donc on peut pas. Voilà, mais c'est vrai qu'on n'a pas de limite forcément dans le temps, et puis qu'on peut faire vraiment des morts. Enfin, on peut se lâcher, je pense que c'est clair que c'est plus ludique parce qu'on prend beaucoup de plaisir, mais surtout qu'on peut, nous, on a. C'est vachement plus ouvert pour nous maintenant de défendre notre musique. Quand on fait des freestyles ou quoi, personne ne nous impose rien, on fait ce qu'on veut. On ne sait pas durer le temps qu'on.
Pour en venir à la compétition, il n'y a pas une interférence en fait entre la compétition et le côté et la musique. Est-ce qu'on peut faire la compétition en musique? C'est un peu,
mais
un peu paradoxal.
En même temps, c'est une certaine quête de technique et tout. La compétition, c'est aussi pour ça que tu gagnes. C'est parce que. Enfin, ça fait partie des critères importants, donc quelque part, ça te réduit dans la musique, comme pour n'importe quel instrument, je pense que, en un sens, ouais.
Mais déjà, la démarche qu'on avait en compétition était d'essayer de faire le plus musical
déjà
possible.
Musical, ouais.
Et ça ne nous a pas toujours porté chance dans
les résultats. On s'est même rendu compte que se focaliser que sur cet aspect faisait qu'on ne gagnerait pas.
Ouais, voilà.
Et à un moment, on a simplement voulu gagner et on a un peu plus respecté les règles implicites.
On s'est formaté au fait d'avoir une intro, un truc, et puis voilà. Et quelque part, et c'est vrai que c'est ce genre-là qu'on a eu le titre, mais bon...
Liberté, égalité, va voter.
En même temps, maintenant, il y a des vidéos, des choses qui, voilà, ça reste un parcours. Les gens, ils peuvent nous revoir maintenant à une époque et découvrir qu'on faisait déjà des choses très musicales et c'était intéressant de le faire aussi.
Ouais, puis ça a été une étape super importante parce qu'on a appris à se connaître humainement, on a travaillé, on est monté sur scène, donc apprendre à subir cette pression. En plus, il y a beaucoup plus de pression quand t'as un show de 6 minutes qui est micro réglé, alors que sur même si on doit jouer nos morceaux et être plutôt juste quand on fait des concerts, voilà, c'est sur une heure et demie, enfin ça a plus rien à voir avec la compétition qui était beaucoup plus casse-gueule. C'est une super bonne école pour la gestion du stress. Voilà,
surtout à l'époque, il n'y avait pas vraiment de vision de scratch music. C'était là, mais en même temps, c'était pas là. Tout a son temps, et nous, on était dans les compétitions à ce moment-là pour en arriver là maintenant à faire de la musique, mais on se disait pas 5 ans avant on va faire de la musique et puis jouer devant des gens. C'était voilà, on a vécu notre temps dans la compète. Ça nous a aidé effectivement à construire le groupe et à se rencontrer, à échanger des choses et à se rendre compte qu'on pouvait faire de la musique et avancer, faire des choses un peu plus.
Tu parlais approximativement de 5 ans, etc. Le terme turntablism, il est assez récent. Ça ressemble pour moi à une espèce de lettre de noblesse qu'on a donnée à ce truc qu'à certains moments on considérait plus comme une technique justement que comme un instrument. Est-ce que quelqu'un comme DJ Shadow par exemple a permis de démocratiser et de décomplexer pas mal de gens sur cette chose qui devenait plus seulement l'accompagnement mais une forme de musique principale dans les structures des morceaux.
Mais en même temps, beaucoup en sample, il a pas le travail que nous on fournit.
Ouais, DJ Shadow, c'est un producteur comme RJD2,
comme un autre.
Avant, il fait sa musique avec des machines.
Ouais, Kid Koala,
c'est plus quelqu'un effectivement
qui manipule des disques en fait, quoi. en live.
Nous, on n'utilise pas de machine, tout part. Enfin, la seule machine qu'on utilise dans la composition de la musique, c'est un lecteur multipiste. Mais tout ce que t'entends a été joué avec des platines. Et voilà, la syncope que t'entends, rien n'a été édité à la main. On n'a pas recoupé un truc pour le replacer et l'entendre à ce moment. Tout a été joué à la main avec des platines, des vinyles et des tables de mixage, quoi. Donc c'est un mouvement qui est super récent. Et a priori, à ma connaissance, 3-4 albums à ce jour composés à partir seulement de platines vinyle. Et on est le seul groupe à l'avoir fait, quoi. Les premiers, c'était D-Styles qui a fait un album solo.
L'essentiel, c'est la musique.
Et
ça reste un. Ils écoutent la musique, ils viennent en concert. La plupart ne capent pas vraiment qui fait quoi, à quel moment. Mais c'est une énergie. Nous, on défend notre musique avant tout. Avant la façon dont on fait la musique.
Ça, et puis ça reste un mouvement qui définit pas la musique aussi, quoi. C'est tu vois.
Voilà, et puis médiatiquement.
Faire de la guitare musique, ça veut pas dire faire du rock. Enfin, tu vois, ça aurait pas de sens, quoi, dans ce sens-là.
On est un peu dépendant de ça aussi, mais bon, c'est pas notre. Nous, notre but, c'est d'être un groupe et de faire de la musique après. Voilà,
et donc, comment est-ce que. Faites-nous un petit rapide. Oh là là, j'y arrive plus à parler français, moi. Un rapide résumé de d'où vous venez chacun. Parce que moi, je sais que, par exemple, toi, tu viens plus spécifiquement. Je te connais par ton travail avec les Svinkels. Les autres, j'ai un peu plus de mal, des lacunes. Mais c'est un sport qui est un sport, entre guillemets, qui, à la base, est fait pour être un peu solitaire. Et qu'est-ce qui vous a poussé tout d'un coup à vous dire bon, allez, maintenant, on s'y met à quatre et on. Par rapport à vos cursus
déjà,
personnels.
Les créateurs, les visionnaires de ce mouvement, qui sont Mixmaster Mike, Qbert, ont eu très tôt, en 84-85, ils se sont achetés des platines en ayant pour démarche d'acheter un instrument de musique. Qbert, il était fan de Coltrane, il était fan d'Hendrix, et il s'est dit, moi, quel instrument je vais jouer? Je vais jouer de la platine, quoi. En 84, il était voilà, et il a passé 15 piges dans sa chambre à trouver sa voix sur la platine vinyle, quoi. Et ces gens-là ont été déjà donc les créateurs de toute la technique qu'on utilise aujourd'hui. Ils ont vraiment défriché et ont été les premiers à se dire pourquoi on formerait pas un orchestre de platinistes, quoi. Donc nous, on n'a rien inventé à ce niveau-là. Ça a été fait bien avant nous. Seulement, nous, à un moment, on s'est retrouvés en groupe et on a passé ce cap de l'album en tant que groupe et voilà, et puis de composer de la musique. Le temps a fait que la musique était très gimmick au début parce que ces gens-là venaient de la culture hip-hop, donc c'était basse, batterie, une guitare cocotte et puis un petit lead. Voilà, on s'est rendu compte qu'on pouvait produire de la musique, tous les styles de musique, puisque notre matière première c'est le vinyle et qu'on peut prendre n'importe quel son de n'importe quel vinyle et puis l'utiliser, le manipuler, le scratcher ou pas le scratcher, le jouer à l'endroit, à l'envers, taper sur la platine pour faire des sons. Enfin, notre album, il est fait de beaucoup d'erreurs aussi, quoi. Donc ça s'inscrit dans un long processus qui a commencé en 84 quand un DJ. Le premier s'est dit, moi, plutôt que de jouer de la batterie, de la guitare, ou enfin une personne, ou du saxophone ou de la trompette, moi, je vais jouer de la platine, quoi. Donc, on est les enfants de ces gens-là. Et voilà, et notre singularité, je pense que c'est qu'on se retrouve avec cette envie de faire de la musique. Et quand on est tous les quatre, on est productif à ce jeu-là, quoi.
Justement, votre album, je crois qu'il y a un live qui est sorti ou qui doit sortir.
Notre album est accompagné d'un DVD déjà.
Voilà, ouais. C'est quoi? C'est l'aboutissement de quelque chose ou c'est au contraire un départ sur une longue collaboration, une grande carrière?
L'album, c'est l'aboutissement parce que pour nous, c'est la première. Enfin, avant d'avoir fait cet album en utilisant que des platines, on avait composé 3-4 morceaux. C'était vraiment le début. On a vraiment défriché et découvert tout ce qu'il était possible de faire. Découvert aussi la manière de l'enregistrer. On a découvert comment utiliser le logiciel qu'on utilisait. Enfin, ça a été vraiment la découverte sur toute la longueur, quoi. Et donc, c'est un aboutissement d'avoir mené à bien ce projet. Et puis, on en est super fiers. On en était super fiers quand il a été fini de mixer. Et on en est toujours super fiers aujourd'hui. Et en même temps, c'est un départ parce que c'est le premier album de notre groupe. Parce qu'on est le premier groupe à en avoir fait un de cette manière-là. Le premier groupe à tourner dans le monde entier en défendant notre musique, en utilisant que des platines. Et que voilà. Et que là, on sait qu'on va bientôt attaquer le deuxième album. Et qu'on espère on fera au moins aussi bien que le premier.
Il faut espérer, oui. Et là, vous êtes
Il faut espérer faire mieux quand même.
Ah bah, toujours. Ouais, oui,
le deuxième album, c'est quand même un cap.
C'est le plus difficile.
C'est un cap super difficile. Ouais.
Là, donc, vous êtes quatre, que des platines, pas de sampler, pas de machine. Est-ce que c'est quelque chose qui est figé ou qui éventuellement est appelé à évoluer?
Ça a déjà évolué au final, vu qu'on a déjà composé de la musique pour une pièce de théâtre contemporaine pour laquelle on a utilisé des claviers, des trucs comme ça. Et puis on a même aussi fait de la musique avec des potes musiciens, un bassiste, un clavier.
Pièce pour laquelle on était accompagné d'un orchestre symphonique aussi, de 20 musiciens.
Ouais, c'est le fait de faire de
la
musique.
On a déjà fait de
la
musique sur laquelle a été réécrite des arrangements pour des cordes, donc ça a déjà pas mal avancé. Musique qui venait elle aussi de platine et de choses comme ça, quoi. Donc les perspectives, elles sont infinies en fait. Parce que déjà, on fait tous les styles de musique. Même si on peut pas identifier, enfin à part pour certains morceaux de l'album, tel morceau, il y a un morceau qui est peut-être un peu jazz et peut-être un autre qui est un peu plus électro, mais on a tendance à mélanger un peu toutes nos influences. Et voilà, et il y a quelques musiciens avec lesquels on aimerait bien travailler. Et puis on a une pote percussionniste et un pote clavier avec lesquels on joue demain à Strasbourg, qui nous accompagne de temps en temps sur scène quand on a les moyens de les emmener. Et voilà, et les perspectives sont un peu infinies, c'est ce qui est intéressant dans ce projet. Et dans ce...
Donc là, ce soir, vous passez par un gros festival, quand même, qui fête ses 30 ans, le Printemps de Bourges. Ça va vous arriver de plus en plus souvent, je pense, de faire ce genre de grosses scènes. Est-ce qu'il y a une vision différente? Bon, ça va être un club ce soir, mais est-ce que vous avez des visions différentes si vous êtes amené à jouer sur une scène devant énormément de monde ou un petit club? Est-ce que vous, le public,
ce soir c'est un gros festival, mais en même temps pour nous c'est un peu un petit club, ça doit être 350 personnes.
Ouais. Le Printemps de Bourges a ça de différent par rapport à d'autres festivals, c'est qu'il y a plusieurs scènes et qu'en fait les gens n'ont pas accès à toutes les scènes. Quand tu vas, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Gare au Rock, on a fait les transmusicales, enfin, entre autres, quoi. Les transmusicales, il y a plein de scènes, il y a plusieurs
festival
salles.
Festival de gauche, c'est un et, Jack Land, Marie-Georges Buffet,
et,
mais
et
bon.
Et tu payes une entrée et tu vas voir tous les concerts. Hein. Donc ce soir, nous, on joue dans le cadre d'un festival, certes, mais on joue dans une petite salle de 300 personnes. Apparemment, les gens ont aussi accès au 22 Est, donc ils verront, il y aura deux scènes. Mais c'est vrai que nous, notre image, nous, on joue dans deux aspects différents, soit dans une salle de concert, quand on est la première partie d'un groupe ou quand on est un groupe tête d'affiche, soit dans un festival où on est dans un hall où il y a 6000 personnes et où on joue après un groupe de rock, avant un groupe de dub ou l'inverse. Ce soir, pour nous, ça ressemble moins à un festival puisqu'on se retrouve dans une petite salle comme si on jouait au Nouveau Casino à Paris ou à l'Astrolabe à Orléans.
Mais selon la taille de la salle, ça influe sur votre set? Est-ce que...
Pas du tout, non.
Non, c'est les gens qui font que le set...
Ça influe sur nous, sur le plaisir qu'on va prendre, sur l'énergie qu'on va donner puisque ça va changer.
On prend autant de plaisir avec des salles de 350, hein, c'est pas ça, c'est juste que c'est une autre énergie, c'est un peu différent, mais ça change pas.
Donc là, aujourd'hui, quel est le programme pour les mois à venir? Combien de dates, quel pays, etc.
On va plutôt dire les jours où on travaille pas. Non, on a juste 20 jours off en août. Sinon, on fait des concerts jusqu'à la fin du mois de juillet, à partir du début du mois de septembre. Donc voilà, on a déjà fait une tournée aux États-Unis. On va au Japon, au Danemark, en Grèce,
en Russie,
en Espagne.
On retourne aux États-Unis pour une tournée.
On retourne aux États-Unis pour une tournée en novembre ou en octobre. Et au Québec, on a joué à Tahiti et on fait énormément de dates en France, surtout
Casablanca.
C'est votre label qui doit être content, non?
C'est le tourneur. Ouais.
Notre tourneur est content. C'était notre tourneur avant que l'album sorte. C'est quelqu'un qui nous a donné notre chance avant même qu'il y ait l'album dans les bacs.
Respect, Darto.
Donc voilà, quoi. Grâce à Pone et grâce à Zwinkel, puis grâce à sa
Arsenal Production,
la vision.
Eh ben en tout cas, nous, on sera vaillants ce soir. Peut-être pas au pro. On en parlera à la fin du set, parce que sinon, ça serait trop facile de dire avant, de venir au devant et puis faire coucou, regardez, on est là, puis d'aller se coucher derrière. Non, on verra après. Merci beaucoup.
Payer ta bière dans les loges.
Dans les loges.
Une dernière question, vous qui avez arrêté la compétition, est-ce que vous avez été confronté au problème de dopage?
Non.
De l'alcoolisme, mais dopage, non.
En même temps, ça expliquerait peut-être certaines défaites qu'on a essuyées et pour lesquelles on n'a pas compris forcément les raisons.
Pas assez de drogue.
Maintenant qu'on connaît effectivement certains adversaires qui ont gagné devant nous, on se dit que peut-être l'explication peut se trouver là. Ouais.
Merci beaucoup de nous avoir rendu visite.
Merci à vous.
Merci à très bientôt. Merci.
Ciao.
Merci.